I'm gonna send him to outer space.
Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org.
To find another race. I'm gonna send him to outer space.
Deux situations sur lesquelles vous souhaitiez que je porte un commentaire.
Oui.
La situation Sahraoui et la situation Zapatiste, elles sont extrêmement différentes. La situation Sahraoui, elle est l'objet véritablement d'un énorme contrôle par le Maroc qui ne souhaite absolument pas que, par exemple, les représentants du Sahara occidental, par exemple, à les Nations Unies, exposent leur doléances, revendiquent leur situation. Voilà, c'est extrêmement, vraiment, vraiment, vraiment durement contrôlé, au point même que les quelques événements qui peuvent avoir lieu en soutien au peuple sahraoui dans différents pays, y compris dans la municipalité dans laquelle j'habite en France, a fait l'objet, disons, de poursuites de la part du Maroc sur les organisateurs de tels événements. Donc voilà, le Sahraoui, le peuple sahraoui est loin de pouvoir obtenir, je pense, son autonomie et sa liberté, malheureusement pour lui. Il se qualifie comme peuple autochtone, mais il n'a même pas la possibilité de pouvoir exprimer ses revendications directement aux Nations Unies. Donc là, c'est une des situations de totale opacité et la communauté internationale n'est pas du tout prête à soutenir le peuple sahraoui pour autant que je sache. Mmh. Dans le cas zapatiste, la situation est tout autre. Et d'abord parce qu'il y a eu un ensemble territorial qui a fait l'objet, donc il y a eu quand même une guerre dite de basse intensité. Il y a eu des accords de paix qui ont été signés en 1996, les accords de San Andrés. Il y a eu la volonté véritablement de construire quelque chose dans une région où l'État était totalement à la fois présent et absent, c'est-à-dire mal présent, quoi, d'une certaine manière. L'éducation était vraiment nulle, la santé était vraiment nulle, et les zapatistes ont construit leur autonomie, renforcé leur autonomie, bénéficient d'une solidarité internationale extraordinaire. Et probablement avez-vous entendu parler de la tournée européenne des zapatistes.
Oui, tout à fait.
Voilà. et donc, lorsque l'on connaît, moi j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, au moins deux choses me paraissent tout à fait remarquables. D'une part, la composition de ce qu'ils ont appelé l'escadron 4-2-1, l'escadron 4-2-1, la composition 4 hommes, 2 femmes, 1 trans. Trans qu'ils dénomment Otro A, donc il y a vraiment un jeu linguistique remarquable, et qui est descendu à Bigo et qui a rebaptisé la terre européenne d'un mot qu'ils ont eux-mêmes porté, donné. Donc je crois que si de mémoire, peut-être que je serais dans la prononciation erronée, mais je crois que c'est Sulmil Karchenkop. Donc on a là affaire à des gens qui sont porteurs d'une volonté de transformation, non seulement de leur propre territoire, mais du reste du monde, anticapitaliste, etc., etc., quoi. Et qui s'inscrivent, peut-être avez-vous reçu une carte qui a été envoyée, je crois, il y a 15 jours, de la part des mouvements, alors je ne sais pas qui l'a signé exactement, je n'ai pas ça à l'esprit tout de suite, mais qui retourne la manière dont les Mexiques officiels dénomment les zapatistes, extemporaneos. Et donc, j'ai trouvé que cette innovation linguistique de la part du gouvernement mexicain est tout à fait extraordinaire. Donc, vraiment, ils ne sont pas contemporains, ils sont dans un autre temps. Et eux-mêmes, dans cette lettre adressée au monde, revendiquent cette différence. Revendique qu'on est inconvenant, incompétent, voilà, il nous juge comme cela, les autres, bah oui, bah on est comme cela et on veut faire autrement. Donc vraiment, la notion de faire un autre monde est possible, d'autres mondes peuvent se reproduire. Donc, vous voyez, les zapatistes là sont assez porteurs d'une idéologie. Mais les zapatistes ne sont jamais venus non plus aux Nations Unies. Mmh. Leur but n'est pas de négocier avec le Mexique, même si l'Institut national, voilà, l'Institut national des peuples autochtones mexicains participe de soutien, même je pense qu'ils soutiennent la tournée zapatiste. Donc les processus sont véritablement différents, mais la question c'est effectivement de construire quelque chose d'alternatif. Et je vois dans ces deux postures, évidemment une que je connais un petit peu plus parce que amérindien, alors que les Sahraouis je connais moins bien, que à travers des mouvements de soutien et pour le coup une autodétermination qui a très 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 peu de chances de se réaliser, étant donné aussi des conditions de vie extrêmement contrôlées, sous lesquelles, avec l'incarcération, dans lesquelles sont les, oui. les Sahraouis. Donc, je pense que c'est véritablement c'est un sujet qui entre la communauté internationale, qui s'en lave les mains et qui se passe la patate chaude régulièrement.
Et puis peut-être que ce qu'il y a de commun, du coup, s'il y a une chose en commun peut-être entre les zapatistes et le peuple sahraoui, c'est ces agressions répétées dont ils sont victimes. On sent qu'il y a vraiment une pression qui est mise en bordure dès que quelque chose est mis en place ou dès qu'une revendication surgit. On sent qu'il y a vraiment une répression féroce qui s'abat. Et qui voilà quoi. Alors évidemment, on sait bien que les enjeux sont énormes, et la pression est telle. Je veux dire, quand on parle d'extractivisme ou de prédation capitaliste, on a là des exemples concrets, et on sent bien que c'est extrêmement difficile. J'imagine que de votre point de vue, eh bien, on a un regard également sur les luttes qui sont menées. Et d'ailleurs, je voulais juste pour en terminer, parce qu'on va arriver doucement au terme de cet entretien, je veux pas non plus prendre trop de votre temps, mais y a-t-il également une troisième voie qui serait celle du Chili et de la constituante? Comment est-ce que vous regardez ça? Dans la constituante actuellement au Chili, eh bien, on voit que se met en place une structure pour pouvoir, comment dire, faire sien ou en tout cas faire ensemble quelque chose.
La situation chilienne il faut distinguer deux choses. Le processus constitutionnel qui peut avoir lieu dans n'importe quel pays et qui est important pour les peuples autochtones, qui a eu lieu dans différentes pays d'Amérique latine. Donc, le premier pays à réformer sa constitution, c'est le Brésil en 1988 pour donner des droits au peuple autochtone territorial en particulier, même si Bolsonaro, actuellement, c'est un des principaux ennemis, des peuples autochtones souverains sur l'Amazonie. Le Brésil a réformé sa constitution et on espère que Bolsonaro ne restera pas si longtemps que cela, et surtout que c'est le lobby agraire, parce que c'est pas que Bolsonaro, c'est tout le lobby agraire qui est extrêmement problématique. Mais la Colombie a réformé, le Pérou a réformé, le Mexique a réformé, l'Équateur évidemment a fait une constitution plurinationale, la Bolivie, l'Argentine qui ne reconnaissait absolument aucun peuple autochtone en 94 93 la constitution commence à les reconnaître. Donc il y a beaucoup de choses. Le Chili n'avait pas de constituante, n'avait pas réformé sa constitution depuis Pinochet, depuis la transition, etc. Donc le processus constituant, il est réclamé depuis au moins 10 ans à minima que je connaisse et que je vois toujours d'ailleurs l'état du Chili répondre aux Nations Unies que oui, tout va bien avec les autochtones. Donc il y avait vraiment un objet de lutte, la constituante était un objet de lutte, c'est aussi un objet de lutte en Australie, les peuples aborigènes d'Australie aimeraient que qu'il y ait une réforme de la constitution de manière à ce qu'il rentre dans la constitution et pas qu'il soit vraiment pleinement considéré, parce que une des particularités aussi des processus constituants, donc ça dépend, c'est que quelque part on reconnaît la préexistence à l'État des autochtones, et à partir de là on peut, étant préexistant à l'État, on va reconnaître leurs droits propres, leurs normes propres, leur propre manière de penser le droit. Et donc il s'agit ensuite de penser la relation entre les formes de droit, ce qu'on appelle le pluralisme juridique. Donc ça, c'est extrêmement important. Et l'autre particularité du Chili, c'est que les Mapuches, les Yaguita, il y a 9 peuples autochtones au Chili qui ont été vraiment traités comme des communautés, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et parfois comme des ethnies. C'est un terme que d'ailleurs les peuples autochtones n'acceptent plus beaucoup ce vocable détenu qui a l'air de faire quand même une différence entre les peuples à état et les peuples à ethnie d'une certaine manière. Les Mapuches ont été vraiment dans la lutte, ont fait l'objet d'une grosse répression, ont fait de la prison, les leaders spirituels Machi sont rentrés dans la lutte, les femmes sont rentrées dans la lutte, et ils étaient systématiquement, criminalisé. On a entendu parler de la criminalisation à l'encontre des mouvements sociaux autochtones depuis le Chili. Ensuite, ça s'est étendu parce que tous les processus, finalement, disons, d'agression industrielle se traduisent aussi par des assassinats, des massacres, des choses comme ça, qui se développent ailleurs, et la Colombie en est un bon exemple. Mais jusqu'à présent, donc les Mapuches n'arrivaient absolument pas à se faire entendre d'une quelconque façon jusqu'au moment, disons, des années 2019-2020. Il y a eu un gros mouvement social. Les Mapuches ont été dans la lutte. Je ne sais pas si vous vous souvenez des manifestations massives qu'il y avait, à la fois des questions de lutte contre la vie chère, de lutte contre le libéralisme, de droits des femmes, de ces femmes extraordinaires qui ont soulevé, et il y avait des drapeaux Mapuches dans ces grandes foules, dans ces grandes masses qui chantaient tout ensemble Victor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Vous voyez, ça c'était quelque chose qui a marqué un tournant. Puis la constituante est arrivée, et extraordinaire, pour moi je trouve ça absolument admirable, la présidence de la constituante, du processus constituant, est une femme Mapuche. On aurait, Elisa Lancon et c'est bon, on reconnaît, mais c'est quelqu'un de remarquable, que l'ensemble des forces politiques acceptent, parce que ça a été compliqué, d'accepter que les peuples autochtones soient représentés, qu'ils soient véritablement en nombre suffisant pour pouvoir parler, qu'ils n'aient pas des strapontins. Vous voyez, il y a eu beaucoup de négociations au préalable. Arriver à ce que une femme Mapuche soit préside la constituante, demande la reconnaissance des langues, l'exige, c'est déjà une forme de prouesse. Donc là, on est dans quelque chose de nouveau, mais on a aussi une expérience dans laquelle on a beaucoup attendu de processus constituant et auquel les Autochtones ont participé en Équateur et en Bolivie. A été à la fois porteur d'espoir vers la transformation d'État plurinational, qui est quelque chose de compliqué, mais en même temps pas toujours respectueux justement des droits des peuples autochtones dans différentes situations. Demander aux Waorani en Équateur face dans leur lutte contre les pétrolières dans une zone qui est a priori une zone protégée, enfin par qui c'était Yasuni. Vous voyez, c'est quelque chose de complexe, quoi. Donc, je pense que d'une manière générale, la question des droits des peuples autochtones relève toujours de la mobilisation des individus, c'est un objet de lutte, c'est certainement un objet de solidarité, et ça porte pas simplement sur le territoire, mais aussi sur différents autres objets qui permettent de reconnaître quelque chose qui est très important aussi, que j'ai pas mentionné, et on va probablement conclure sur cela, que les Autochtones ne sont pas des êtres du passé, mais sont bien des êtres contemporains. C'est-à-dire qu'ils vivent avec nous dans le même temps, et que par conséquent, ils peuvent être à la fois autochtones et modernes. Et que ça, c'est un point très important. Il ne faut pas toujours les voir à travers le prisme d'une nostalgie romantique perdue, mais à travers le prisme de savoir alternatif. Et je pense que les Apatistes, même s'ils ne négocient pas aux Nations Unies, sont porteurs de cette question de savoir alternatif, de construction, de modalités tout à fait intéressantes et toujours à défendre.
Absolument. Alors effectivement, c'est une magnifique conclusion de dire qu'effectivement, on est dans une réalité de lutte, une réalité également combative. Vous-même d'ailleurs, quels sont vos prochains projets, s'il y en a qui vous habitent d'ores et déjà, et notamment, allez-vous, qui sait, rencontrer la délégation 421 et la délégation aérienne, parce qu'ils sont plus de 150, ils et elles sont plus de 150 à venir en Europe. Enfin, à être là, en partiellement déjà.
Je ne sais pas s'ils auront leur passeport, oui, si je peux les rencontrer. Oui, à l'occasion, je les rencontrerai. Bon, là, je suis pas dans la zone de leur passage, donc j'essaierai de les retrouver, de les rencontrer. Bon, je suis en relation avec beaucoup d'organisations de soutien et donc du coup, je devrais arriver à faire quelque chose. Ils sont là quand même pour une tournée pendant un an, donc on devrait y arriver. Mes prochains projets sont à la fois de poursuivre ces recherches qui sont extraordinairement passionnantes et stimulantes sur ces questions de justice climatique, justice environnementale, justice spatiale. Parce que c'est des objets là de lutte très très fort, parce qu'on voit avancer les choses en matière de questions d'éducation, questions linguistiques, ça commence à avancer un petit peu, mais ne pas, enfin voilà, avoir des usages qui préservent à la fois les peuples autochtones et l'avenir de la planète, les usages du territoire, c'est bien très intéressant. Mais je suis aussi, probablement, je vais être participer à des missions sur les questions de génocide structurel, parce que je pense que c'est quelque chose de important, génocide où on laisse des populations mourir de faim, vivre dans l'extrême pauvreté, et je pense à cela aux pygmées en Afrique centrale, par exemple. Donc mes prochains, moi j'ai le monde comme terrain de jeu.
Effectivement, c'est compliqué, absolument.
Mais ce que je trouve formidable, c'est que les autochtones représentent des réalités vitales. Et quand on rencontre les autochtones, on rencontre également la lutte pour la vie. Et il faut s'interroger, nous, occidentaux, développés, certes un petit peu préoccupés par la propagation d'un certain virus, mais quand même jouissant de conditions de vie exagérément consommatrices de tous ces produits dont on pourrait jouir collectivement.
Effectivement. On porte effectivement une grosse responsabilité en termes d'écocide. Vous disiez tout à l'heure, parliez d'écocide tout à l'heure. Ouais. Effectivement, là, tout à l'heure, il va y avoir d'ailleurs une petite présentation de ce qui s'est passé au Vietnam avec l'agent Orange. Quelque chose, de terrible. J'imagine que vous avez évidemment. Quand vous avez toutes les informations concernant le site. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Irène Bellier. On aura envie de deviser pendant des heures, parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est le monde entier qui est votre terrain d'investigation. On n'a pas, on peut en tout cas aborder la problématique du climat également, dont effectivement on sait la responsabilité également qu'on porte. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine discussion, j'espère en tout cas. Juste pour en terminer, on va rappeler le site internet, parce qu'il y a beaucoup de ressources extrêmement intéressantes là-dessus, c'est donc www.segip.ehess.fr. Et y aurait-il des conseils que vous aurez envie de nous livrer pour en terminer, de liens internet, de documents, de publications. Effectivement, il y a notamment l'ouvrage collectif Peuples autochtones dans le monde, les enjeux de la reconnaissance, qui a été édité aux éditions de l'Harmattan en 2013. Il y en a un autre que vous avez cité dont j'ai oublié le nom. Mais y aurait-il quelques conseils comme ça que vous pourriez nous donner si on souhaitait aller investiguer un peu plus loin?
Moi, je voudrais que carrément vous puissiez lire. J'ai élaboré avec le projet SEGIP aussi une ligne de publication à l'Harmattan, de manière à ce que ce soit accessible et rapidement sortable. Enfin, il était vite et avec des couvertures ravissantes qui reprennent de l'art autochtone, évidemment, en les rémunérant et pas en leur piquant leurs images. Parce que je pense qu'on a traité beaucoup d'objets qui sont liés. Donc le premier portait sur la question de la reconnaissance, le deuxième portait sur la question du territoire, ça s'appelle « Terre, territoire et ressources », politique, pratique et droit des peuples autochtones. Et ça aussi, c'est pourquoi est-ce que... on a travaillé sur ce triptyque, hein, « Terre, territoire et ressources », qui est très intéressant à réfléchir, parce que on peut s'approprier de la terre, on peut avoir, par exemple, on peut être propriétaire d'un open terre, mais qu'est-ce que ça veut dire que terre en dehors du sort de la propriété? Tout le droit international est né du droit de la propriété, il faut aussi s'en souvenir. Donc, pourquoi territoire? À quoi ça renvoie cette notion de territoire? pourquoi, quand on parle de territoire et quand on même terre signifie quelque chose de terrestre, les autochtones, ils ont aussi le rapport avec avec l'air, avec l'eau, avec les avec territoire peut-être habité par des espèces animales, végétales et humaines vivantes, mais également par tout un ensemble d'êtres spirituels avec lequel il faut composer. Donc je suis pas là en train de vendre une nouvelle religion, je dis simplement que quand on commence à respecter et quand on a un certain respect pour la nature et même les voilà les jardiniers, les horticulteurs, vous en parlerez, vous parlez à une fleur et la fleur vous répond à l'échelle de la forêt. Imaginez ce que cela peut faire que d'avoir un rapport juste, d'entretien, de bonne fréquentation avec un monde que vous pouvez dans lequel vous pouvez prélever un certain nombre de choses et qui vous le rend en vous permettant de pouvoir prélever sur le long terme. Tandis que si vous coupez tous les arbres, vous ne pouvez plus rien prélever parce que la terre devient absolument drastiquement infertile.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Donc, et ressources, parce que un peuple ne peut pas être privé de ses ressources. Donc, ça, c'est en droit international. Donc, les ressources naturelles, qu'est-ce que ça veut dire? Et les ressources minières, et les ressources, etc. Donc, je vous invite à lire un peu ça, d'autant plus qu'à chaque fois, dans tous les bouquins, on prend des exemples, des cas, des études de cas qui sont dans les différents pays et régions du monde. Donc, ça permet aussi de comprendre des situations que j'ai mentionnées au départ, disons, de distinction. Après, on a travaillé sur les questions d'éducation. Les questions d'éducation, l'éducation en langue maternelle, autochtone, l'éducation bilingue qui existe en Amérique latine mais qui n'existe pas en Afrique ni en Inde, ni ailleurs, ni en Australie, ou très peu. Donc éducation interculturelle bilingue, donc éducation formelle. Pourquoi l'éducation formelle a été un problème pour les autochtones? Vous avez notamment dans ces problèmes d'éducation tout ce volet absolument lourd et horriblement pesant et dramatique dont on a parlé récemment, des pensionnats indiens.
Oh oui. Hein,
dont on retrouve maintenant que dont on voit maintenant que c'est pas il y a 150 000 enfants qui sont passés là-bas, il y en a 6 000 qui sont morts, on connaît les noms de 2800 et maintenant on retrouve des ossements, c'est absolument abominable. Ça implique tout l'État canadien, ça implique toute la population non amérindienne. Voilà, donc c'est des choses comme ça et c'est pareil en Australie, il y a eu des générations volées. Donc c'était important de travailler de ces questions d'éducation et comment est-ce que ça a servi finalement à faire voilà, il y a un vocable qui a cours, à savoir tuer l'Indien, éduquer l'homme. Vous voyez, tuer l'Indien dans l'enfant, éduquer pour en faire un homme. C'est ce genre de variable qui est absolument odieuse. Le quatrième ou cinquième, c'était sur les droits des peuples autochtones, des Nations Unies, aux sociétés locales, pour montrer comment on passe de cet espace, finalement. Moi, je parle d'adoption internationale des peuples autochtones parce qu'ils ont été tellement marginalisés dans les États qu'il a fallu passer par cette communauté internationale pour commencer à voir ce qui se passait de ce côté-là. Et donc, on a une responsabilité, nous, alors les anthropologues du monde, mais aussi les géologues, les géochimistes, etc. Donc, moi, j'ai voulu faire des bouquins qui puissent être lus et attirer l'intérêt de personnes comme vous et comme d'autres, voilà. Et puis le petit dernier qui a été publié simultanément en français et en anglais chez Footledge, qui porte sur les échelles de la gouvernance comme une espèce de récapitulatif de ce programme de recherche. Donc voilà, je vous donne un programme de lecture pour les deux.
C'est super.
Ça vous distraira.
En tout cas, merci beaucoup Irène Bélier pour d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes ces questions. Merci à vous.